La deuxième épître aux Éphésiens, vous allez savoir où il faut aller, je crois. J'espère. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous avons jusqu'ici, dans nos considérations de ces lettres, nous les avons regardées d'une façon globale. Ce que Jésus dit à ses églises, la façon qu'il y a des églises qui sont différentes, il y a des choses positives, négatives, que Jésus leur dit. Et le fait que quand il écrit, la dernière fois surtout, on avait focalisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait focalisé sur cette première phrase qu'il donne, 5 fois en tout cas dans ses lettres, verset 2, Apocalypse 2, verset 2, « Je connais tes œuvres. » Je connais tes œuvres. Et c'est quelque chose qui doit vraiment nous frapper continuellement, que Jésus écrit une lettre à ses églises, et il dit, ok, maintenant je veux que vous sachiez que je connais tes œuvres. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez enfant, certains, il y a des enfants ici, ça doit pas être dur, et que c'était la nuit et on nous a dit de ne pas parler. Bon, si on est seul dans la chambre, on peut toujours parler à soi-même. Hein. J'ai un souvenir de ça, j'étais avec mon cousin, et voilà, ça parlait tard et on nous avait dit d'arrêter, et tout d'un coup, la porte s'ouvre, et une lumière qui entre, et c'était mon papa. Et ce que on ne savait pas, c'est qu'il était à la porte, et il nous écoutait. Et il savait qu'on parlait, mais on ne savait pas qu'il savait qu'on parlait. Mais tout change quand on réalise que... On nous écoute, on nous entend, et ça a porté, c'était la fin de la conversation pour la nuit. Et ça m'a frappé récemment quand j'ai lu en Nombre, je vous ai dit de regarder en Apocalypse, mais je veux lire ce verset en Nombre 12. C'est l'histoire où Marie et Aaron, ou Myriam et Aaron, vont se plaindre contre Moïse, à cause de sa femme, la femme, dans Louis II, ça dit la femme éthiopienne qu'il avait prise. Probablement, maintenant, ça c'est sa deuxième femme. On peut présupposer que sa première femme est morte. Et ça c'est maintenant, il s'est remarié. Il semble que c'est un mariage qui vient de se faire. C'est la critique, en tout cas. Et il dit, verset 2, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Donc il présume qu'ils ont la même relation avec Dieu qu'à Moïse. Mais ils sont là, mais Dieu parle par nous aussi. Et vous savez ce qui est la phrase juste après ? J'ai trouvé ça frappant. Ils disent, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel l'entendit? Hein, donc, ils parlent du fait que l'Éternel me parle et ils oublient complètement que l'Éternel m'entend et il m'écoute. Et voilà, c'est une histoire que vous pouvez dire vous-même. Mais c'est un des messages les plus importants dans toutes ces lettres. L'Éternel connaît, l'Éternel voit, l'Éternel sait. Alors lisons cette lettre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, si vous avez des oreilles ce soir, l'Esprit vous demande d'écouter ce que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse. Et je reviens sur le verset 3. Chapitre 2, verset 2 et verset 3. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors, nous allons regarder ce soir spécifiquement ce que Jésus dit à Éphèse. Chaque église a ses points forts et ses points faibles. Et nous voulons apprendre ce que le Seigneur aime avoir dans une église et ce qu'il n'aime pas voir dans une église. C'est ce que l'Esprit veut pour nous de voir. Et je pense que nous pouvons diviser les compliments que Jésus donne à cette église en trois catégories. Alors, on va s'aider à les trouver ici. La phrase « Je connais tes œuvres », je pense qu'on peut la prendre comme une phrase générale. Elle parle des actions externes, ainsi que des activités internes. Il y a des œuvres du cœur, on a vu ça la dernière fois. Il dit, donc je connais tes œuvres, il le dit à 5 églises différentes. Mais qu'est-ce qu'il dit spécifiquement juste après à l'église d'Éphèse? Il dit, je connais ton travail et ta persévérance. Et il y a là un point. Et je pense que les deux vont ensemble. Travail et la persévérance. On pourrait dire la persévérance dans le travail. Alors pensez avec moi juste un moment sur la persévérance. La persévérance est une qualité qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Si quelqu'un dit « je suis persévérant » ou « je persévère », on veut toujours poser la question. Quelle est la question qu'on veut poser? Ouais, en quoi? Ok. Moi, je reste au lit. L'alarme sonne, mais je reste au lit. On crie sur moi, mais je persévère et je demeure fidèlement au lit. Voilà, je suis persévérant. Ben, ça dépend, hein? Dans quoi on persévère? Un rebelle peut persévérer dans sa rébellion. C'est pas une bonne chose. Mais la persévérance, c'est ce qui donne de la valeur à toutes les autres qualités. Donc quelqu'un dit, je suis plein d'amour. Mais ça dure 2 minutes. Hein, je suis plein de patience pendant 1 heure. Et après, j'ai plus de patience. Mais j'ai beaucoup de patience pendant 1 heure. C'est la persévérance qui donne de la valeur à ses autres qualités. Donc la persévérance est quelque chose qui ne va pas ensemble, toujours couplé avec autre chose. Et ici, donc, la persévérance va avec quoi? Verset 2. Le travail. Ok. Est-ce qu'on retrouve ce mot persévérance dans ces versets? Le verset 3, très bien. Tu as de la persévérance. Et là, on est dans quel domaine? Regardez le verset 3. Et dites-moi dans quel domaine nous nous trouvons. Est-ce qu'on est toujours dans le travail ou est-ce qu'on est dans un autre domaine? Ok? On est face aux épreuves, face à la souffrance. Oui? On peut le préciser encore plus, peut-être? On peut dire la persécution? Je crois que oui. hein, parce qu'ils ont souffert à cause de mon nom. Donc, là au verset 3, donc tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je pense que ça c'est un groupe aussi. On trouve le même mot persévérance utilisé dans le verset précédent, mais le contexte ici est différent. Ils souffrent. Donc c'est la persévérance dans la souffrance, hein, ou face à la persécution. Donc on a la persistance dans le travail, on a la persévérance dans l'affliction. On peut utiliser le mot persévérance pour les deux. Et puis au milieu, on a une troisième chose, donc. Qu'est-ce que nous avons au milieu? Après, je connais ton travail et ta persévérance. On passe à autre chose. Je vais le lire et puis on va essayer de découvrir ce que c'est. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ok, là, on peut les regrouper, parce que si on regarde bien, on voit qu'ils parlent du même groupe. Et ce groupe, il en parle de trois façons. Ils sont décrits comment? Donnez-moi comment, une description. Oui, méchants. Méchant. Ailleurs, c'est traduit malfaiteur dans les évangiles, ce même mot. Jésus lui-même est accusé de cela. Quand Pilate leur demande, mais pourquoi est-ce que vous l'amenez? Il dit, mais s'il n'était pas malfaiteur, on l'aurait pas amené. Bien sûr, il est coupable. On l'amène. Forcément, il doit être coupable. Et c'est ce mot qu'ils utilisent, de Jésus-Christ. Et nous savons qu'il a été compté parmi les malfaiteurs. Il est mort au milieu de deux malfaiteurs. Jésus a souffert. Mais ce sont ici de vrais méchants. Ok? Et quoi d'autre? Ok? Menteurs. Bon, on va sauter à la fin. On va dire menteurs. Des menteurs. Ce mot, on le retrouve à la fin d'Apocalypse. Je vais voir si j'ai le verset, oui. 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce sont des menteurs. Et puis, il y a une troisième façon de les décrire aussi. Tu as dit à peu près, hein, qu'est-ce que tu as dit? Voilà, donc on peut dire des faux apôtres, hein, qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et c'est le même groupe, donc on va tout regrouper cela ensemble, des méchants, des faux apôtres et des menteurs. Et puis il y a trois verbes ici. Donc, les Éphésiens font quoi face à ce fléau, face à ce problème, ce défi? Qu'est-ce qu'ils font? Donnez-moi le premier verbe. Oui, mais avant ça. Oui, avant ça. Attends, peut-être je le lis à mon VE. Ah oui, ils ne supportent pas, pardon, je le lis à... J'ai oublié le premier. Oui, on ne les supporte pas. Puis deuxième verbe. Éprouver. Et troisième. Ils ont trouvé. Voilà. Trouvé. Donc, logiquement, le premier va en dernier. C'est la fin. Il les éprouve. C'est-à-dire, ils vont les tester. Ils vont les mettre à l'épreuve. Et puis, les ayant mis à l'épreuve, ils les trouvent. Ça, c'est l'évaluation qu'ils font, ils découvrent que ce sont des menteurs. Des gens qui arrivent, nous sommes apôtres de Christ. C'est pas seulement à Éphèse qu'ils ont eu ce problème. Si vous lisez les lettres aux Corinthiens, vous allez voir aussi, ils ont eu ce problème. Si vous lisez les lettres aux Thessaloniciens, vous allez voir, eux aussi, vous avez ce même problème. Des gens qui venaient, et d'ailleurs, j'y pense juste maintenant, mais Paul avait dit à cette église, il était à Éphèse quand il a dit, faut savoir que un jour, des faux prophètes viendront, vont se présenter comme des brebis, mais ce sont des loups. Et ils vont entrer parmi vous pour s'ils peuvent dévorer le troupeau. Et eux, ils les voient venir, ils les éprouvent, et ils trouvent qu'ils sont menteurs, et les ayant éprouvés et trouvés menteurs, ils les rejettent. Voilà, donc ça c'est les trois verbes qu'ils font. Donc on a ces trois domaines où cette église est louée. Premier domaine, leur travail. Deuxième domaine, leur pureté, on peut dire ça, face à l'erreur. Et troisième domaine, la persévérance dans l'affliction. Ce serait bien si Dieu pouvait dire ça de nous. Persistance dans le travail, pureté face à l'erreur, persévérance dans l'affliction. Alors, je veux juste revenir, pour pas être long, sur le premier. Jésus loue la persistance dans le travail. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Ta persévérance dans le travail. Le mot travail est traduit aussi dans une autre traduction, la peine que tu prends. Ou une autre traduction, ton labeur, ou même tes labeurs. Et le dictionnaire biblique donne comme définition à ce mot, exercer une activité pénible, travailler, de peiner. Ça parle moins de la chose qui est faite que de la difficulté que ça entraîne à le faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Ah, quelqu'un peut faire un très beau gâteau, jouer une très belle pièce de musique. Nous, on voit l'œuvre d'art. On dit, ah, quel ouvrage, quel chef-d'œuvre. Mais ce mot parle pas du produit accompli, ça parle de l'effort qu'on a mis à l'accomplir. Et c'est ce que Jésus voit. Nous, on peut voir, ah oui, il a bien fait, ou on voit, ah, il a pas bien fait. La maîtresse à l'école, par exemple, pour les enfants, elle vous donne une note sur 20, mais la maîtresse ne peut pas évaluer l'effort que vous avez mis à la maison pour préparer le devoir. Et parfois, il y a des enfants qui ont des meilleures notes, qui travaillent moins. Et Jésus dit, je vois vos efforts, je vois votre travail, je vois la peine que vous avez mis. Et peut-être les autres, ils voient le produit, ils disent, c'est pas top, c'est pas terrible, mais moi, je vois le travail. Je trouve que c'est très encourageant, hein, parce que Jésus dit, que ce soit pour les enfants ou pour nous tous, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous le faites pour le Seigneur, quoi que vous fassiez. Vous faites de tout cœur, on va dire ailleurs. Vous le faites pour le Seigneur. Et il regarde la peine qu'on met, il le voit. Ce mot, je vais vous lire plusieurs versets où Paul parle de cela dans sa vie. En 2 Corinthiens 11, 27, il dit, j'ai été dans le travail, c'est ce mot, dans le travail et dans la peine, qui est un autre, un synonyme. Mais on voit dans le registre de ce mot. quoi? De quoi parle-t-il? Écoutez ce qu'il dit juste après. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Ça veut dire des nuits blanches. Où il a dû travailler très tard. À la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, et à la nudité, c'est-à-dire un manque de vêtements. On sait que plus tard dans sa vie, il va demander à Timothée de lui amener des choses pour qu'il puisse se garder au chaud. Parce qu'à l'époque, faut savoir, les prisonniers, on leur donnait pas tout ce qu'il fallait. Ils souffraient d'un manque de ces choses. Et il le décrit comme son travail et sa peine. Ces nuits blanches, être exposé à ces difficultés. En 1 Thessaloniciens 2:9, il va écrire, il va dire, vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine. Encore ces deux mots ensemble. Et puis, dans la Bible française, il y a deux points. Notre travail, notre peine. Deux points. Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Donc, on travaille nuit et jour. Ça, c'est notre travail et notre peine. C'est fatigant, ça. C'est fatigant. Et puis, sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Troisième fois que Paul utilise ces deux synonymes ensemble. Et voici l'exemple. Nous avons été nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Donc c'est des choses très pratiques ici. C'est le fait d'être fatigué. Et souvent, on définit ce mot, kapos, comme étant le travail qui nous amène jusqu'à l'épuisement. C'est ce type de travail. Où on se sent vraiment vide après. Parce qu'on est fatigué. Fatigué. Et Jésus dit, je vois que vous êtes fatigué. C'est beau de voir ça de la part du Seigneur. Il écrit une lettre et dit, je vois que vous êtes fatigué pour moi. Vous vous fatiguez pour moi. Je le vois. Alors, d'où vient ce travail? Peut-être vous pouvez chercher 1 Thessaloniciens chapitre 1. Il y a un beau, je vais dire contraste, vous allez comprendre, je crois, après, avec ce qui se passe en Éphèse. 1 Thessaloniciens chapitre 1, je commence au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Alors, le même mot que Jésus utilise des Éphésiens se trouve ici. C'est le mot « travail » encore. L'œuvre, c'est un synonyme. Et le travail vient de quoi, selon ce verset? Le travail vient de quoi? Qu'est-ce qui produit le travail dans ce verset? C'est l'amour, vous le voyez? Le travail de votre amour. Et il y a trois qualités mentionnées ici. Vous les avez peut-être déjà soulignées ou entourées. Il y a l'amour, il y a quoi d'autre? La foi. Et l'espérance. Voilà. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, il va comparer des choses qui vont pas demeurer, comme les dents de prophétie, etc., et des choses qui demeurent. Il dit, il y a trois choses qui demeurent. Et c'est ces trois choses ici. Et il va dire, et parmi ces trois choses, la chose qui est la plus grande dans sa longévité, c'est l'amour. Parce que le ciel sera caractérisé par l'amour. Ce sera plus la foi, parce qu'on verra Dieu. Ce sera plus l'espérance, parce que l'espérance est toujours dans l'attente. Mais ce sera encore plus l'amour. Et l'amour ici donne naissance au travail. L'amour donne naissance au travail. Et je crois que nous pouvons tous témoigner de cela. Il y a un bébé que nous aimons. On travaille pour la survie, pour le bien-être de ce bébé parce qu'on l'aime. On ne demande pas de rémunération, on ne demande pas de remerciement, on le fait par amour. Quand on aime quelqu'un, on veut le servir. On veut, quand un homme aime vraiment une femme, il veut la servir. Quand une femme aime vraiment un homme, elle veut la servir. Entre frères et sœurs, quand nous nous aimons vraiment les uns les autres, un Jean le dit, hein, n'aimez pas simplement en parole, mais en acte et en vérité. Et elle va dire des choses comme ça, que Dieu éprouve son amour envers nous, pas par un beau discours, mais parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour par ses actions. Pourquoi? Parce que l'amour crée le travail. L'amour produit le travail. Et donc l'amour, tout le travail pour l'Église, qui nous amène jusqu'à l'épuisement, doit être produit par l'amour. Mais j'ai dit un contraste parce que vous vous rappelez qu'en Apocalypse 2, Jésus va leur dire, mais vous avez perdu quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu? Et ils ont perdu leur premier amour. Et là aussi, je crois que en tant que chrétien, on a probablement connu cette expérience. L'amour produit du travail, et on travaille pour le Seigneur, et on travaille pour le Seigneur, et on travaille pour le Seigneur. On arrive à un moment, et on s'aperçoit même pas jusqu'à ce que c'est fait, quoi. Et on a perdu l'amour, et le travail demeure, et le travail devient de plus en plus lourd, et de plus en plus pénible. Est de plus en plus difficile et les choses deviennent de plus en plus négatives. Et j'ai vu ces tendances en moi-même et j'ai accompagné des gens, j'ai vu ça dans leur vie, où des choses qu'ils faisaient auparavant deviennent trop difficiles pour elles après. Elles ne peuvent plus. Et c'est pas tant les circonstances ou même le travail qui a changé, c'est qu'ils ont perdu leur premier amour. Et Paul va écrire aux Galates, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle, ou si c'était possible, vous auriez arraché les yeux pour moi. Et maintenant, je suis traité presque comme un ennemi. Et ces autres gens qui sont de faux apôtres, là aussi il y a ce problème de faux apôtres, il a dit, vous les accueillez. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que c'est moi qui ai changé? Il dit non, c'est vous. Et donc c'est le service du chrétien envers le Seigneur doit toujours puiser dans l'amour. Si on s'évalue seulement par ce qu'on fait, on va assez rapidement perdre le fondement, la fondation. Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes ou de péchés. L'amour, c'est comme une couverture, et elle couvre plein de choses. Mais dès qu'on enlève l'amour, c'est comme si on enlève la couverture, et on commence à voir des fautes dans tout le monde. Et je vous assure, il y a des fautes à voir dans tout le monde. Hein, c'est comme l'autre jour, on a enlevé avec, René et Viviane ont enlevé le bout de bois qui est en bas. Et il y avait des bestioles qui commençaient à courir un peu partout. On ne les voyait pas parce que elles étaient bien cachées. Mais c'est aussi un produit de ce manque d'amour. On commence à voir des choses qui sont souvent vraies dans les uns des autres. Ça arrive dans la famille, ça arrive entre les frères et sœurs, la femme et le mari, ça arrive dans l'Église. Et ce qui nous gênait pas avant nous gêne tout d'un coup. Et là aussi, c'est notre manque d'amour. Et donc, Jésus leur dit, avec beaucoup de tendresse ici. Je vois votre travail. Et c'est une bonne chose de travailler jusqu'à l'épuisement. Vous êtes peut-être dans le centre de la volonté de Dieu si vous êtes bien fatigué. Mais il faut avoir là-dessus qu'il soutient un amour. Et c'est ça qu'il peut dire aux Thessaloniciens, qu'il peut plus dire aux Éphésiens. Je vois votre travail, même mot, votre travail qui vous amène à l'épuisement, mais qui vient de l'amour. Donc, que ce soit un encouragement pour nous ce soir, de veiller à travailler pour le Seigneur, mais de veiller à que ce soit toujours motivé par notre amour. Et donc, Paul va prier pour les Philippiens, il va dire, ce que je demande dans le Seigneur, c'est que votre amour, c'est Philippiens 1:9, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Mais il dit, je prie pour votre amour, que ça augmente. Et c'est une des choses qu'il faut prier les uns pour les autres. On a prié pour la sagesse, c'est bien, absolument nécessaire. Mais prions pour notre amour. Et je crois qu'une belle prière qui peut plaire au Seigneur, c'est la prière que le Père a donnée à Jésus lorsqu'il parlait de sa foi. Jésus descend de le mont de transfiguration et bon, il y a ses disciples qui sont là, ils n'arrivent pas à enlever cet esprit de ce garçon et le Père vient, il crie, demande à Jésus de l'aider et Jésus lui dit, est-ce que tu crois? Qu'est-ce que vous aurez dit? Parfois, je me demande cette même question. Est-ce que je crois? Puis, j'ai des reproches à me faire. Même par rapport à ma foi. Mais lui crie quoi? Qu'est-ce qu'il crie? Vous vous rappelez? Il dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. On dit, mais, il se contredit là. Je pense pas qu'il se contredit. Il dévoile tout. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, toute la foi qu'il a, il exerce et il demande, Seigneur, donne-moi la foi qu'il me faut. Et on peut prier la même chose par rapport à l'amour. Seigneur, je t'aime. Mais viens au secours de mon manque d'amour. C'est la question que Jésus a posée à qui? À Pierre. Et on voit que ça le gêne, il a sa conscience qui le trouble, il a ce qui s'est passé tout récemment, quand il a nié le Seigneur, et il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et vous savez peut-être que Pierre lui dit, oui, je t'aime, mais il n'utilise pas exactement le même mot que Jésus utilise, et Jésus lui demande une deuxième fois, mais est-ce que tu m'aimes? Le mot agapé, il dit, oui, tu sais que je t'aime. Encore un autre mot, et puis une troisième fois, Jésus lui dit, Est-ce que tu m'aimes? Et il utilise le même mot que Pierre demande, que Pierre vient d'utiliser. Mais est-ce que vraiment tu m'aimes comme tu dis? Et Pierre lui dit quoi? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et donc il fait appel, ce que nous voyons ici, hein, je sais, je connais tes œuvres. Il fait appel à la connaissance de Dieu, mais pour dire au Seigneur, tu vois, Seigneur, quand même que je t'aime. Malgré ce que j'ai fait, tu sais ce que j'ai fait, que je t'ai nié, mais tu sais toute chose, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc, viens au secours de mon manque d'amour. Mais c'est une bonne chose de travailler dur pour le Seigneur jusqu'à l'épuisement, nuit et jour, à l'œuvre. Pour le Seigneur. Il voit pas seulement le résultat, il voit l'effort. Il y a des choses comme le ménage, c'est difficile le ménage ici, hein. Mais il voit vos efforts. Donc il préparait pour les enfants, les leçons, pour les ados. Le temps que vous mettez, personne le sait, sauf Dieu, mais Christ le voit, il le sait. L'effort que vous mettez pour venir, hein, il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts juste pour venir au culte. Pas évident, surtout avec les grades, tout ça. Jésus le voit. La fatigue que vous avez, vous dites, ah, est-ce que je vais aller prier, je suis fatigué. Jésus dit, je sais que vous êtes fatigué. Et c'est une belle chose de travailler pour moi. Mais que ce soit toujours motivé par l'amour. Prions ensemble le Seigneur pour clore. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons, et elle nous fait du bien à nos cœurs. Et si nous avons une prière ensemble pour clore ce soir, ce serait que tu nous aides à t'aimer plus, que tu nous donnes plus d'amour pour toi, moins de passion pour ce monde et les choses de ce monde, moins d'amour pour ces choses, mais plus l'amour pour toi et pour tes intérêts, pour ton royaume, pour ton peuple. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Et que cet amour produit en nous du travail pour ta gloire et pour notre joie. Amen.